enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Eh bien, ce soir, c'est moi qui ai la responsabilité de vous apporter le message. Ça fait longtemps que j'ai plus prêché un mardi soir, j'en suis totalement désorienté. Mais je vais, je pense, retrouver mes marques. Mon thème ce soir, le chemin vers la vie. Un message très simple. On va pas se prendre la tête ce soir. On va simplement, scruter ce que dit l'Écriture et nous laisser encourager. Vous êtes comme moi. Tout au long de la vie, nous croisons différents chemins. Toute notre vie est faite de choix. Des choix multiples. Avez-vous déjà joué à ce jeu où, vous devez trouver la bonne route qui vous mène à la destination finale, alors que vous avez un tas de routes qui s'entremêlent, qui se passent dessus, dessous? Est-ce que vous avez déjà joué à cela? Il n'y en a qu'une qui arrive au bout. Il y en a 36 qui partent, mais il n'y en a qu'une qui arrive. Et le défi est là, c'est de suivre et de choisir la bonne route. Le choix est multiple, mais la bonne route, il n'y en a qu'une. Et ce soir, je voudrais de tout cœur que nous puissions, au travers de la parole de Dieu, trouver le bon chemin, le seul chemin. L'Écriture nous dit dans le Deutéronome, chapitre 30, verset 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Qui désire vivre ? Je dis pas survivre, vivre. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Une vie remplie, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Ceci dit, nos choix sont influencés. Et nos choix sont souvent influencés, par notre recherche de bien-être, de confort. Nos choix sont influencés par la facilité. Cependant, vous et moi, nous savons que la facilité n'est pas toujours et forcément le bon chemin. Réussir sa vie, ce n'est pas forcément choisir le chemin le plus facile. Il y a des étudiants ici. Si vous prenez du temps pour travailler, si vous avez choisi la voie des études, si Dieu vous a fait la grâce d'en avoir la capacité, c'est parce que vous savez qu'au bout, cela vaut la peine. Cela vaut la peine de passer des heures et des heures dans une chambre fermée pendant que les autres font toutes sortes d'activités. Ça vaut la peine de se retirer, étudier des heures. J'avais un de mes enfants, il passait jusqu'à 15 heures dans sa chambre. J'allais parfois le voir, je lui ouvrais le Velux, je lui disais « tu vas devenir fou dans tes livres ». Parce que moi, il suffisait que je voie les livres pour avoir mal à la tête. Mais il a une motivation, il a un but, il a un objectif. Et il sait que ce n'est pas le chemin le plus facile. Il y a des renoncements sur ce chemin. Il faut faire des efforts, et des efforts de toutes sortes. Il y a des plaisirs qu'il faut abandonner momentanément. Il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir faire. Mais un jour, à l'issue, on moissonne ce qu'on a semé. Ceci dit, ce n'est pas le chemin le plus facile qui est forcément le meilleur. D'ailleurs, dans Matthieu, Jésus dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Et il y en a beaucoup qui entrent par loi, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Hello ? Large est le chemin qui mène à la perdition. On s'y trouve facilement, on y avance facilement, emporté souvent par nos propres convoitises. Mais Jésus est clair, il dit « Étroit est le chemin qui mène à la vie ». Et tous ce soir, nous avons dit que nous voulons vivre et vivre en abondance. Alors il y a un chemin. Mais mes amis, le chemin est étroit. Non, pas le chemin de la facilité, le chemin étroit. Le chemin qui demande un prix à payer. Vous connaissez cette fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi, n'est-ce pas? Que fit la cigale? Elle chantera tout l'été Mais l'hiver arrivé, elle fut congelée. C'est pas tout à fait ça. C'est la fable de la Peter Schmidt. Elle choisira le chemin de la simplicité. Elle choisira le chemin le plus facile, mais finalement le plus difficile. Car j'aimerais vous dire que ce qui semble être facile au début se terminera par quelque chose d'extrêmement difficile. Si au début le chemin semble large, la finalité, la fin de toute chose, elle ne sera pas aussi glorieuse que la facilité que vous aurez rencontrée. Le désir de Dieu ce soir, j'aimerais vous le dire, est clair pour vous. Écoutez ce qu'il est dit, Ézéchiel 33, « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Voilà ce que Dieu veut. Dieu veut que vous viviez. L'objectif de Dieu, c'est que vous viviez et vous viviez en abondance. C'est le but de Dieu. C'est le désir de Dieu. Dieu désire votre bonheur, pouvez-vous croire cela ? Dieu désire que vous soyez heureux. Avec les amen que je viens d'entendre, je suis bouleversé. Dieu désire votre bonheur. C'est encore faible par rapport à ce que je viens de dire. Dieu désire votre bonheur. Handlik. Ich schlafe Marie. Très, très souvent, l'image que beaucoup de personnes ont de Dieu est une image très frustrante. On a le sentiment que pour être chrétien, marcher sur le chemin étroit, il faut obligatoirement être austère et triste. L'image que nous avons est souvent une image d'austérité. Et le sentiment qu'on a, c'est que pour suivre Dieu, il faut toujours souffrir. Mais j'aimerais vous dire que Dieu veut votre bonheur. Dieu veut votre bonheur. On a une image souvent très faussée. On a le sentiment que être spirituel, c'est ne plus sourire. C'est plus qu'être comme ça dans une espèce de deuxième dimension. Voilà, tu vis plus. Quand on nous parle des saints, ils sont tous en pierre, c'est pas encourageant, hein. J'aimerais vous dire que la Bible nous dit que vous êtes saints et saintes. Elle s'adresse à des vivants. À des vivants. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut que tu sois heureux, que tu sois heureuse. Ça, c'est son objectif. Dans le psaume 23, ce merveilleux psaume que tous vous connaissez bien sûr par cœur, n'est-ce pas? Je suis sûr que j'interroge n'importe lequel et il me le récite. On essaye? Vous savez ce qui se passe quand on pose ce genre de questions? Tout d'un coup, vous avez une partie de l'église qui se lasse les lacets des souliers, même quand ils n'en ont pas. Ça, c'était comme à l'école. Dès qu'il y avait une interrogation, suivant la question, si je la connaissais, alors là... Je me faisais bien. Bon, c'est rare. Mais quand je savais pas, en général, le stylo tombait par terre. Et alors j'allais le chercher. J'allais le chercher jusqu'à ce qu'il y ait la réponse. Puis je remontais. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais j'aimerais arriver tout de suite au verset qui nous préoccupera ce soir, puisqu'il est question du chemin vers la vie. Il est dit au verset 3, « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Il me conduit dans le sentier de sa justice à cause de son nom. Lorsque David parle ainsi, il parle en connaisseur parce qu'il était berger. Mais en l'occurrence, dans le texte-là, il ne parle pas en tant que berger, mais il parle en tant que brebis. C'est-à-dire qu'il se met dans la peau de la brebis et il commente son berger. Il parle de son berger. Et il dit entre autres, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pourquoi? Voyez-vous, les brebis sont des créatures ancrées dans l'habitude. Nous, souvent, quand on parle des brebis, quand on parle de l'agneau, du mouton, on a le sentiment que c'est un animal très doux, on a le sentiment que c'est un animal très paisible, mais loin de là. Une brebis peut être têtue par-dessus tout. Une brebis peut être entêtée. Et le danger justement pour les brebis, c'est de choisir le chemin de la facilité et souvent le même chemin. Jusqu'à ce que des ornières se créent à l'endroit où elles passent. Elles passent, repassent et rapassent encore. Toujours au même endroit. Résultat des courses. Non seulement le lieu où elles broutent s'appauvrit, mais il est infecté par leurs propres excréments. Les brebis s'infectent à force de tourner toujours au même endroit. Elles corrompent le terrain sur lequel elles se trouvent. En fait, n'imaginez pas qu'une brebis est capable de se conduire elle-même. Une brebis à elle toute seule ne sait pas, n'a pas la sagesse, n'a pas l'intelligence pour savoir comment se nourrir, comment se déplacer et où se déplacer. Elle a besoin de la sagesse du berger. Ce n'est pas un instinct naturel en elle. Elle se plaît à revenir toujours sur ses pas. Elle se plaît à toujours revenir à l'endroit de la facilité. Mais malheureusement, eh bien, l'endroit de la facilité est également l'endroit de la maladie et de la mort pour elle. Parce que les pâturages ne la nourrissent plus, mais en plus de ça, voyez-vous, lorsque les excréments sont là, eh bien, des petits vers s'y installent et ces petits vers montent le matin sur l'herbe. Lorsque les brebis arrivent, elles broutent à nouveau l'herbe, avalent ces petits vers et sont infectées par ces derniers, puis certaines d'entre elles en meurent. Ésaïe dira, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, mes amis. En d'autres mots, comme la brebis, la plupart d'entre nous, nous préférons agir suivant nos propres habitudes, caprices et notre propre volonté. Ça, c'est ancré en nous. Même quand on est chrétien, bonne nuit, Cathy, excuse-moi de t'avoir réveillé. Même quand on est chrétien, même quand on est croyant, je me rends compte et je vois des croyants qui tournent en rond toujours dans les mêmes ornières. Et les ornières, c'est terrible, parce qu'on y revient automatiquement. Est-ce que vous avez déjà fait du ski? Moi, je vous l'ai déjà dit que j'ai fait du ski. Ça s'était passé de manière dramatique pour moi. Mais ce qui est terrible au ski, ce sont les ornières quand tout le monde passe au même endroit. Et que tu es un débutant comme je l'étais, automatiquement tu t'inscris dans ce que les autres ont tracé pour toi. Et si la fin de l'ornière c'est un arbre, eh bien tu vas embrasser l'arbre. J'essayais de sortir des ornières et automatiquement mes skis, zoup, glissaient de nouveau dedans et c'était comme des rails. C'était tout indiqué pour la catastrophe. Nous étions comme des brebis errantes, nous agissions selon nos caprices et régulièrement nous répétions les mêmes erreurs. Avez-vous remarqué combien de fois vous avez déjà répété les mêmes erreurs dans votre vie? C'est le philosophe allemand Hegel qui disait « L'histoire apprend à l'homme que l'homme n'apprend rien de l'histoire ». On n'a jamais autant dit plus jamais ça et pourtant on n'arrête pas d'avoir des guerres. On a eu des guerres terribles. Et puis on a affirmé que plus jamais on ne recommencerait cela. Mais l'être humain est comme la brebis. Il suit ses propres voies et régulièrement retourne dans ses ornières. Regardez, dans certains mariages, certains divorces. L'autre jour, j'étais en peine. Et si cette personne devait être là, je le dis avec beaucoup de compassion, mais j'étais vraiment en peine. Cette personne m'expliquait que sa maman était mariée pour la 9e fois. Alors je me dis, mais quand tu te maries 9 fois, c'est que tu fais 9 fois la même erreur. C'est donc qu'en toi sont inscrits des schémas dans lesquels tu retournes inexorablement. Inexorablement, constamment. Mais le drame, c'est que ceux qui sont concernés ne reconnaissent jamais qu'ils doivent changer. C'est toujours l'autre qui doit changer. C'est toujours de la faute de l'autre. Alors, on commence, on recommence encore, et on recommence encore, constamment, dans les mêmes ornières, jusqu'au jour où ce fonctionnement nous détruit. Il y a une volonté d'autodestruction dans l'être humain qui est absolument terrible. Et cette volonté est souvent liée à l'orgueil, à l'affirmation du soi, incapable de reconnaître, incapable de nous remettre en question. Nous persévérons dans l'erreur. Messieurs, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que j'en parle. Lorsque vous êtes invité à quelque part, vous cherchez votre chemin pour atteindre l'adresse. Mais trop souvent, nous les mâles, on est trop fiers pour s'arrêter, ouvrir la fenêtre et demander « ça se trouve où ?» Et quand notre femme nous dit « tu pourrais demander, moi je sais où c'est !» Et quand elle nous dit « ça fait 10 fois qu'on a passé devant la poste, tu es sûr ?» Laisse-moi tranquille, je sais. Mais on a déjà passé plusieurs fois ici. Trop orgueilleux pour écouter le conseil, chérie, arrête-toi, ouvre la fenêtre et demande. On se sent rabaissé. C'est notre fierté qui en prend un coup. Vous n'êtes peut-être pas tous comme moi, mais moi ça m'est arrivé. Et à la fin, j'ai dû ouvrir la fenêtre. Et c'est là qu'une fois la fenêtre ouverte, on me disait « Ah, c'est juste à 50 mètres !» Notre orgueil, notre fierté nous empêche de nous remettre en question. Je ne sais pas où vous en êtes ce soir. Mais je rencontre des familles dans lesquelles les mêmes erreurs se répètent de génération en génération. Combien de fois n'ai-je pas entendu des fils dire « Jamais je ne serai alcoolique comme mon père ». Et pourtant, quelques années plus tard, il reproduit le même schéma. Il est dans les mêmes ornières. Et il est à nouveau dans les mêmes travers. La même chose. Il tourne en rond. D'autres me disent « Plus jamais, non jamais, jamais, je ne m'endetterai comme mes parents se sont endettés toute leur vie, ils ont couru après l'argent. » Et puis, quelques temps plus tard, vous les rencontrez et vous réalisez qu'eux aussi sont dans la même ornière. Ils font la même chose, ils répètent l'histoire inlassablement et l'histoire les détruit comme elle a détruit leurs prédécesseurs. Mais pas de remise en question. L'orgueil. Que signifie suivre ses propres voies si ce n'est faire ce qu'on a envie de faire? Et voyez-vous, faire ce que l'on désire, quand on veut, comme on veut, c'est ce que nous appelons la liberté. Mais de quelle liberté parlons-nous? Une liberté qui nous rend souvent esclaves. Une liberté qui nous empêche de nous remettre en question. Une liberté qui nous conditionne. Une liberté en fait qui n'a rien d'une liberté à la fin, puisqu'elle vous rend esclave. Puisqu'elle vous fait tourner en rond, puisqu'elle appauvrit votre existence au lieu de l'enrichir. Dans le livre des Proverbes, il est dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Alors face à cela, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il le dit, c'est prêché, c'est écrit, c'est lu, mais c'est souvent rejeté. On n'en veut pas finalement. Nous n'en voulons pas, nous voulons continuer dans nos propres voies, comme la brebis obstinée. Nous voulons faire notre volonté. Mais rappelez-vous qu'une brebis obstinée comme cela est en danger. D'abord d'être dévorée par les prédateurs. Deuxièmement, les brebis qui tournent toujours dans leurs ornières finissent squelettiques, squelettique. Ce soir, je ne vous ai pas proposé une vie squelettique, je vous ai proposé une vie en abondance. Et pour cela, il faut choisir le bon chemin. Et pour cela, il ne faut pas se tromper et ne pas s'entêter. Et ce soir, c'est mon appel, ne vous entêtez pas. Ne répétez pas l'histoire, ne recommencez pas, ne tournez pas en rond. De grâce, il y a un moyen pour vous en sortir. Vous pouvez sortir de votre ornière et vous pouvez le faire ce soir. Alors comment venir sur le bon chemin? Eh bien tout d'abord, reconnaître que nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Vous ne pouvez pas secourir quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il a besoin d'aide. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous savez, c'est un instituteur un jour qui dit à ses élèves, « Eh bien, demain, c'est jeudi. » À l'époque, c'était jeudi encore. Vous vous souvenez quand c'était jeudi libre? Qui s'en souvient? Il y a quand même pas mal de vieux, hein? Ouais. Non, je vous ai... Non, je vous ai piégé, là. Le jeudi. Alors, il dit, « Demain, vous allez faire une bonne action. » Alors, vendredi arrive, et puis l'instituteur arrive, il dit, alors, Albert, qu'as-tu fait comme bonne action? Ah, j'ai aidé Madame Germaine qui est aveugle à traverser la route. Très bien, je te félicite. Joseph, j'ai aidé Albert à faire traverser Madame Germaine la route. Bien. Jules, j'ai aidé Albert et l'autre à prendre Madame Germaine pour traverser la route. Puis il arrive au sixième, la même chose. Alors l'instituteur dit, mais attendez, vous êtes quand même pas mis toute la classe à aider Madame Germaine à traverser la route? Ah mais monsieur, c'était pas facile, elle voulait pas. Et parfois on veut faire des actes en désirant aider quelqu'un qui ne veut pas. Ça ne fonctionne pas. Si vous voulez découvrir le bon chemin, il faut que vous reconnaissiez que vous avez besoin d'aide. Psaume 32, verset 8. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Waouh ! Waouh ! « Je t'instruirai, je te montrerai. Le Créateur des cieux et de la terre vous propose de vous instruire personnellement. » Celui qui a créé les cieux, l'infiniment grand, l'infiniment petit, la nature. Ce matin, à 6h15, j'étais dans le bois. Et là, soudain, j'ai vu un sanglier passer avec ses marcassins. Je les ai comptés, ils étaient 10. Oui, j'ai voulu voir combien ils avaient d'allocations familiales, alors j'ai... Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Quand vous allez dans la nature, la dernière fois c'était un renard, après c'était une biche, tout ça fastate, vous vous rendez compte? Hein? L'autre jour c'est un sanglier, on s'est effrayé tous les deux, un grand. Lui il a hurlé, ah un sanglier en me voyant, moi j'ai cru hurler, oh un sanglier en le voyant. On est partis tous les deux en courant. Et je me dis, mais Seigneur ce que tu as fait c'est beau, c'est beau, c'est beau. Lui, le Créateur, lui vous propose de vous instruire, de vous indiquer le chemin ce soir. Pas un homme, pas un pasteur, pas simplement une personne, non, le Créateur. Et c'est pourquoi le psalmiste dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Vous savez, c'est pas par hasard que Dieu a choisi l'image de la brebis pour parler de l'homme. C'est pas par hasard, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, les brebis sont souvent remplies de crainte, de timidité, mais malheureusement également d'obstination et de stupidité. Et je me dis, Seigneur, il faut de l'humilité pour le reconnaître, mais souvent nous sommes stupides. Souvent nous prétendons encore avoir raison, alors que tout démontre que nous avons tort. Nous voulons encore montrer aux autres que nous avons bien choisi. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au mauvais riche et à Lazare. Vous vous souvenez de cette histoire? Qui s'en souvient? Ok. Si votre voisin n'a pas levé la main, vous lui raconterez. Vous prendrez à la fin du culte le temps pour lui raconter l'histoire et lui expliquer, d'accord? Souvenez-vous, le riche est dans les tourments. Il n'est pas dans les tourments parce qu'il est riche. C'est pas un péché d'être riche. Je vais le dire, c'est pas un péché d'être riche. Ce qui est un péché, c'est de vivre que pour ses richesses. Il est dans le tourment. Et dans le tourment, là, dans le tourment, il dit, Père Abraham, envoie Lazare vers mes frères, afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Et Abraham dit, impossible, ils ont la loi et les prophètes, qu'ils y croient. Et là, le riche, que lui dit-il ? Non, Père Abraham. Il lui dit, il conteste encore avec lui. Attendez, il est dans les tourments, il est en enfer, tout lui montre par A plus B qu'il a tout eu faux, il conteste encore. Est-ce que ce n'est pas de la stupidité? Il conteste même dans l'échec le plus profond qui est celui d'être coupé de Dieu éternellement. En fait, ce brave homme, toute sa vie a dit non à Dieu et maintenant, même en enfer, il ne sait plus lui dire oui. Non, non, j'ai raison, je sais, j'ai pas besoin des autres, je suis libre, je fais ce que je veux, comme je veux. Stupide. Il nous est dit dans le psaume 25, quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? Craindre l'Éternel, c'est se soumettre à lui. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Voulez-vous être sage ? Apprenez à craindre celui qui vous a créé. Apprenez à suivre ce qu'il vous enseigne. Il sait mieux que moi et mieux que vous ce dont nous avons besoin pour arriver sur le bon chemin. Une fois que nous avons reconnu que nous avons besoin d'aide, eh bien, nous devons apprendre à nous soumettre à sa direction. Je ne vais pas parler de la soumission ce soir. Le pasteur Ribet en a parlé dimanche de manière excellente. Depuis, ma femme a changé, Jean-Marie. Merci. Merci, Jean-Marie. Je peux le dire, elle n'est pas là ce soir. Simplement un mot. Ce qui est sûr, c'est que la soumission n'est pas une tendance naturelle. Nous ne sommes pas naturellement soumis. Cela a été dit dimanche. Le premier mot que savent dire les enfants, c'est non. L'autre jour, j'avais ma petite Jade. Elle a maintenant 1 an. Bientôt, je vais être grand-père 2 fois. Ah oui, le gendre, il travaille, hein. J'ai l'impression de me revoir il y a 20 ans. Et puis elle avait cassé une pince à linge. Simplement une pince à linge. Elle l'avait cassée. Je lui ai dit, Jade, qu'est-ce que t'as fait ? Elle a 1 an, elle ne sait pas parler. Hein ? Elle baisse la tête, elle ne me regarde pas. Je lui ai dit, Jade, qu'est-ce que t'as fait ? Elle ne me regarde pas. Jade ? Papy Lou te parle. Vous savez ce qu'elle me fait? Elle me tourne le dos, elle s'assied dans l'autre sens, elle dit cause toujours. Un an. Jamais personne ne lui a enseigné ça. Bon, c'est vrai que c'est une fille, donc déjà... déjà, c'est dans les gènes, mais voilà, hein? Revenons à notre texte pour plus de quiétude. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La difficulté réside en cela. Souvent, nous ne voulons pas renoncer à nous-mêmes, même en tant que croyants. Les gens me disent parfois, ça fait 15 ans que je suis chrétien. Oui, ça fait 15 ans que tu es dans l'ornière. 15 ans que tu fais à ta tête et que tu veux imposer ce que tu fais à Dieu. 15 ans ! Pour moi, le nombre d'années de conversion ne veut pas forcément dire quelque chose. Nous l'avons entendu, c'est l'obéissance qui vaut mieux que le sacrifice. Tout le reste, c'est du discours. Vous avez des croyants qui, depuis 15 ans, font les mêmes bêtises et ils recommencent. Ils sont pas fatigués. Ils sont fatigants, par contre. Ils n'arrêtent pas. Jésus dit là qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Alors oui, nous renonçons intellectuellement. Nous renonçons. Nous le disons, nous le croyons, nous le chantons même. Vous l'avez déjà chanté ? Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons. À toi pour mourir ? Mourir ? Vous êtes sûr ? Vous voyez, c'est ça ce qui est intéressant. Parfois, ça vaudrait la peine de s'arrêter et d'écouter ce que nous chantons. Parce qu'on chante en chœur, vous savez, un peu comme la Marseillaise, hop là, on y va. À toi pour mourir et vivre. Et si quelqu'un, à la sortie de l'église, nous demande de le raccompagner à la maison parce qu'il n'a pas de voiture et que ça change notre programme, déjà c'est fichu. Ah, pourquoi moi? Non mais attendez, moi je suis quand même pas la bonne tronche de toute l'église. Hein. Renoncer. Nous n'y arrivons pas. Nous n'aimons pas cela. D'ailleurs, l'apôtre Paul était confronté à cela. Il dit tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Et il parle là de croyants. Bien-aimés ce soir, vous ne marcherez jamais sur le chemin où Christ a marché si vous n'êtes pas prêt à renoncer. Renoncer, c'est apprendre à se soumettre. Se soumettre, c'est apprendre à suivre, même quand on ne comprend pas le chemin. Un disciple suit son maître, ne le précède pas. Ne le précède pas. Allez, on va vous le montrer. Jean-Marie, viens me rejoindre. On t'a pas vu ce soir. Tu manques à tout le monde. Vois. Je traduis pas ce qu'il dit là. Imaginons qu'il soit le maître. Ça te plaît quand même. Voilà. Oui. Il est humble et fier de l'être. Bien. Me soumettre au maître, c'est quoi? C'est le suivre où qu'il aille. Où qu'il aille. Même si je me dis le maître a bu un coup ce soir, mais c'est le suivre où qu'il aille, quoi qu'il fasse. Je comprends pas forcément le chemin. Oui, là tu peux rester, maître. Maître, dressons une tente en ce lieu. Je comprends pas forcément le chemin. Je ne comprends pas forcément ce qu'il fait. Mais je renonce à ma volonté qui dit, moi, j'ai pas envie d'aller là. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on suit pas le maître? Quand par exemple on dit, Seigneur, ah non, pas ça. On va son chemin. On se balade où on veut. On fait ce qu'on veut. Mais tout d'un coup, le maître n'est plus là. Le maître n'est plus là. Et pour vous aider à revenir, il commence à vous priver de la bénédiction. La Bible dit que ces voix, reste encore une minute, ces voix, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Moi, quand certains chrétiens, je me dis, mais tu suis pas Jésus, tu es devant lui, comment peux-tu savoir où tu dois aller? Comment peux-tu connaître le chemin puisque tu es devant lui? Tu devrais être derrière lui. En étant derrière lui, tu es protégé. En étant là, tu es gardé. En étant là, tu es sûr que tu es sur son chemin, tu es sur ses pas, sur ses traces, où qu'il aille, quoi qu'il fasse, comme il veut. Là, tu es sûr. Là, en plus de ça, tu es sûr que non seulement tu es sur son chemin, mais tes pensées sont au diapason de ses pensées. Est-ce que vous me suivez? Pardonnez-lui de faire le pitre, hein. Mais est-ce que vous me suivez? Jean-Marie, merci, je t'aime beaucoup. Vraiment, je t'aime beaucoup. Se soumettre, c'est suivre, c'est abandonner mes raisonnements, c'est dire, ok, t'as raison, T'as raison, Seigneur, je comprends pas tout. Vous croyez que nous avons compris le chemin quand ma sœur est tombée malade du cancer? Croyez qu'on a compris pourquoi Dieu nous fait passer ce chemin-là? Pourquoi ma sœur doit être mourante? Pourquoi faut-il que, après toutes les radiothérapies, après toutes les chimiothérapies, après toutes les interventions chirurgicales, elle soit condamnée? Pourquoi? Pour qu'enfin elle vienne sur son chemin. Pour qu'elle soit là où elle est aujourd'hui. Il a fallu cela. Nous ne comprenons pas tout le temps les chemins du Seigneur. Parfois, nous sommes perdus. Parfois, c'est l'épreuve. Parfois, c'est difficile. Mais s'il est devant nous, nous avons la garantie de la sécurité. Le berger emprunte parfois des voies pour emmener les brebis sur les hauts pâturages. Les voies ne sont pas toujours faciles. Elles sont parfois escarpées. Elles sont parfois étroites, voire dangereuses. Mais il le fait parce qu'il a un objectif. C'est les emmener dans de verts pâturages. Mon frère, ma sœur, ce soir, mon ami, ce soir, choisissez le chemin de la vie. Je m'étais noté 6 points pour une autre fois. Je vous les énumère rapidement, d'accord? La troisième chose qu'il nous faut si nous voulons suivre le bon chemin, c'est acquérir une nouvelle mentalité, de nouvelles attitudes, nouvelle mentalité, changement de mentalité, changer de mentalité. J'avais 6 points là. Le premier, au lieu de m'aimer moi-même, je veux aimer Christ de tout mon cœur et les autres plus que moi-même. Et ça coûte quelque chose. Aimer, c'est une décision. Aimer, souvent, confond aimer avec un bon sentiment. Non, non, aimer, c'est une décision, c'est un choix. Tu choisis d'aimer. Et tu démontres ton amour quand tu fais quelque chose qui te coûte. Quand tu fais quelque chose qui ne te coûte pas, tu ne démontres pas ton amour. Je voulais raconter une fois, ça a été dramatique. Allez, je termine peut-être avec ça pour vous dire ce qu'il ne faut jamais faire. J'habitais à côté d'une grande surface où il y avait un fleuriste. Et j'ai vu le fleuriste aller jeter les fleurs dans la poubelle. Je me suis dit, tiens, je pourrais faire un cadeau à ma femme. Alors Ah, moi je pensais que c'était un acte d'amour, vous voyez. Mais surtout qu'il ne me coûtait pas cher. C'était surtout ça que j'avais vu. Et je me rendais compte que finalement j'étais en train de m'aimer moi-même plus qu'elle. Parce que ce que je visais, c'était 2 choses. Rien dépenser et puis qu'elle soit bien lunée avec un cadeau. Vous voyez? Ça, elle est bien lunée. Moi je suis tranquille. Et puis de l'autre côté, ça m'a rien coûté. Bien. Je vais donc à là. Je regarde si ma femme est pas là. Je regarde, j'observe. Elle est pas là. Tac, hop, je sors discrètement, très discrètement. J'arrive à la poubelle. Il y a encore la fleuriste. Je dis, oh, elles sont belles vos fleurs. Elle dit, mais oui, monsieur Peterschmidt, vous vous rendez compte de si belles fleurs? Je dis, on pourrait faire un bouquet. Elle me dit, ben oui. Oui, monsieur Peterschmidt, si vous voulez. Elle était un peu étonnée que j'arrive là, mais... Alors ensemble, on a fouillé les flétries, les fanées, les... Tu sais, on était dans la poubelle en train de faire notre bouquet. Et puis, on en a sorti un truc pas mal. Puis, je suis retourné vers la maison en me disant, de toute façon, elle ne saura rien. Moi, je suis content, ça n'a rien coûté. Et puis, elle se réjouira pour l'amour que je lui manifeste. Au moment où j'approche de la maison, je vois le rideau qui bouge. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Tout mon plan est en train de s'effondrer. Je monte l'escalier. Elle est en haut de l'escalier, elle m'attend les bras croisés. Je souris aussi largement que possible. Je dis, je voulais te faire plaisir, chérie. Elle me dit, je vois. Rien qu'à la réponse, les fleurs avaient envie de flétrir. Et là, je lui dis, je t'ai fait un bouquet. Tu l'as cherché où? Marine, la te gratte, 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 gratte. Alors elle me dit, je le prends, mais je ne peux pas te dire que ça me réjouit. Et j'avais réalisé qu'à force de s'aimer soi-même, on faisait du mal autour de soi. Si vous voulez, mes amis, suivre son chemin. Il va falloir que vous oubliez vous-même, mettre Christ au centre, et chercher le bonheur des autres. Deuxième point, ne plus être un mouton de panurge qui suit la foule, je ne développe pas. Troisième point, au lieu de revendiquer vos droits ou la première place, y renoncer en faveur des autres. Au lieu de vous révolter, quatrième point, dans les circonstances les plus difficiles, acceptez chaque événement, sachant que chaque événement, eh bien, si vous êtes dans la main de Dieu, c'est lui qui l'a permis et ça contribuera à votre bien. Ne changez pas de voie. Ne vous dites pas, c'est trop dur, je change de chemin. Non, non, restez sur le chemin. Restez-y fermement. Cinquième point, au lieu d'affirmer votre volonté, apprenez à vous soumettre à Christ. Et dernier point, au lieu de suivre votre chemin, suivez celui de Jésus-Christ.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.